Salut tout le monde, vous êtes à Voix de fait, l'émission animée par les membres du collectif Anarchiste la nuit. Aujourd'hui, l'émission, comme nous l'avions annoncé sur notre blog, voixdefait.blogspot.com, on a une entrevue exclusive avec la chanteuse Dominique Grange, de même qu'avec le BDiste Jacques Tardy et son compère de toujours, Jean-Pierre Vernet. Donc, ça viendra un peu plus tard à l'émission. Mais on commence tout de suite en musique avec le groupe de Boston, Guardia Negra. La chanson s'appelle Internacionalista. Et au retour de la pièce, notre rendez-vous hebdomadaire avec la parole populiste. Vous êtes à votre fait sur les ondes de CKIA 88.3, Radio Basseville.
Olvida tu raza, tu lengua y tu credo. Que sos porque sos un obrero. Olvida banderas, gobiernos, fronteras. Estamos entrando en una nueva era. Nuestra lucha es internacionalista. Nuestra clase es internacionalista. El patrón nunca estará de tu lado. Solidarizate entonces con el proletariado. No perteneces a ninguna nación. Dedícate entonces a la revolución. Nuestra meta es internacionalista. El mañana será internacionalista. Orgullo en tu tierra, no lo dejes de lado. Pero tu tierra y mi tierra son del mismo legado. Unidad entre los pueblos, no perdamos la pista. Contra el capital y el Estado internacionalista. El mañana será internacionalista. El mañana será internacionalista.
Voici la parole populiste. Sylvain Bouchard.
Faut plus manger de vin pour aller à Montréal.
Ils sont malades!
C'est sur possible pour une pure gauchiste. Viens prendre un repas avec les sacs de bise.
Est-ce que vous aviez des notions de végétarisme avant? Pas du tout, zéro.
Les plus végés que je mangeais, c'était un salaire, c'est genre au McDo.
Pure gauchiste.
Merci à toi, incontinent crétin. Merci d'avoir fait sous toi, permettant ainsi à l'humble chroniqueur radiophonique quotidien de trouver matière, et je pèse mes mots, à entretenir sa verve.
Expliquez-moi pourquoi Star Academy devient l'émission de brainwashing propagande pour les Québécois.
Oui.
C'est de la propagande, ça.
C'est de la propagande pure gauchiste.
Là, c'est rendu de la marde. Fallait qu'on batte dans le moteur. Ouais. Se sentir sa courroie puis croquer un petit pom-pom.
Qui lisait beaucoup de livres qui étaient très, 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 très brillants.
Croquer un petit pom-pom.
À savoir avant de savoir. Hein.
Croquer un petit pom-pom.
Là, c'est rendu de la marde.
Eh oui, de retour à Voix de fait avec, nos amis les populistes de droite, encore une fois, qui se dépassent cette semaine. Oui! Et par un peu à contrario, on a entendu cette semaine quelque chose d'assez exceptionnel sur les ondes de Radio-Canada. Eh bien oui, le chanteur bien populaire, bien connu, Daniel Boucher, qui se livre à un commentaire qui, enfin, ressemble beaucoup à ce que certains anarchistes souhaiteraient comme monde différent, monde nouveau. On l'écoute, Daniel Boucher. C'était à l'émission L'autre midi à la table d'à côté à SRC, samedi dernier.
Comment je te dirais ça? Moi, j'aimerais ça que l'argent, ça n'existe pas, tu sais. C'est ça que j'aimerais. C'est ça que j'aimerais. Moi, j'aimerais ça que l'argent, ça n'existe pas. On pourrait faire notre job uniquement pour les bonnes raisons. Uniquement pour les bonnes raisons. Puis en échange, avoir accès aux fruits du travail des bonnes raisons de chaque être humain.
Mm.
Tu sais? T'as vu ta maison sur le cap, là-bas, à l'autre bout? Tu peux l'avoir. Parce que ce que tu le fais pour les bonnes raisons. Tu vas à la quincaillerie, le gars de la quincaillerie, il aime ça, te conseiller. Il a fait ça toute sa vie. Tu recules ton troc, tu ramasses tes madriers. Ils ont été coupés par des gars qui aiment ça se lever à 4 heures le matin, passer la journée dans le bois. Transformé dans un moulin par quelqu'un qui aime ça, transformer du bois.
Tu fais pas déjà ça, toi?
Le plus possible, mais pas à 100%.
Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre, marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chefaillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez-les, nos voix, elles annoncent la guerre.
Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans.
Regardez l'exploité quand il rentre le soir, et regardez les femmes qui triment toute leur vie. Vous qui bavez sur nous, qui dites qu'on sent bourgeoise, descendez dans la mine, à 600 mètres de fond, c'est pas sur vos tapis qu'on meurt de silicose. Vous comptez vos profits, on compte nos mutilés. Regardez-nous vieillir au rythme des cadences. Patron, regardez-nous, c'est la guerre qui commence.
Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp.
Vous venez d'entendre la chanteuse Dominique Grange qui chantait justement Les Nouveaux Partisans, une chanson qu'elle a enregistrée en 1970. Dominique Grange était en spectacle à Québec samedi dernier dans le cadre d'une, en fait, du festival de la bande dessinée francophone qui organisait un événement, c'était au Musée de l'Amérique française, et Dominique Grange y présentait son plus récent spectacle qui s'appelle Des lendemains qui saignent, le tout accompagné de dessins de son compagnon de vie, Jacques Tardy, le BDiste bien connu que vous connaissez peut-être à travers ses albums, notamment autour de la Commune de Paris, ou encore Les Aventures d'Adèle Blanc-Sec, ou encore Nestor Burma, vous savez, ce détective privé, une série de bandes dessinées écrites d'après les romans de Léo Mallet. Bref, Jacques Tardy, donc, était lui aussi à Québec en compagnie de son compère de toujours et co-scénariste de sa dernière bande dessinée, Jean-Pierre Vernet. Donc, tout ce beau mandat était réuni au Musée de l'Amérique française et Dominique Grange, en fait, est connu aujourd'hui au Québec, entre autres, par cette chanson « Les Nouveaux Partisans » qui remonte déjà à une génération en arrière et qui est redécouverte par une nouvelle génération de militants et militantes révolutionnaires. Alors, on a profité de leur passage à Québec pour réaliser une entrevue avec nos trois amis, entrevue qui a été réalisée en marge du Salon du Livre de Québec. C'était dimanche dernier. On va entendre dans ce premier bloc, justement, Dominique Grange qui nous explique un peu ce qu'elle est venue faire à Québec et le concept derrière son spectacle « Des lendemains qui saignent ». Dominique Grange, vous avez présenté hier un spectacle que moi j'ai trouvé fabuleux, aux forts accents antimilitaristes. D'où vous venait cette idée de travailler sur un spectacle comme celui-là et de le présenter ici à Québec?
D'abord, le travail qu'a fait Tardy sur 14-18 depuis longtemps, quelque chose qui m'a dans quoi j'ai baigné, puisque bon, tout le monde sait que nous sommes des proches compagnons d'armes, et petit à petit l'envie de chanter, d'interpréter des textes liés à cette période, à cette effroyable guerre que nos grands-pères ont faite, donc on connaît, dont on a entendu parler depuis qu'on est enfant, et puis plus récemment le travail Putain de guerre de Tardy avec Jean-Pierre Vernet, qui est co-auteur du livre, et qui tout d'un coup me donnait non seulement l'approche en image, l'approche sensorielle presque de cette réalité, mais aussi une foultitude de renseignements, d'informations de la part de l'historien et écrivain qui est Jean-Pierre Vernet. Donc, tout ça m'a fait prendre conscience de quelquefois de petites choses qui étaient le quotidien des poilus ou des tranchées et qui j'ai eu envie d'écrire là-dessus. J'ai envie à la fois de chanter des chansons qui étaient des chansons qui représentaient la souffrance ou la résistance des hommes au front et aussi d'écrire des histoires autour de ça. Voilà, c'était en gros ce qui composait ce spectacle. Après, la présence à Québec est venue du fait que ils étaient invités pour l'album Putain de guerre qui est paru chez Casterman et que donc Flammarion à Québec a mis en avant puisqu'il est sorti il n'y a pas très longtemps et les chansons venaient un peu naturellement, l'envie de faire ce spectacle tous ensemble, voilà, avec les projections des dessins.
Jacques Tardy et Jean-Pierre Vernet, ce n'est pas la première fois que vous travaillez justement aussi sur la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui vous interpelle encore aujourd'hui, près de 100 ans après le conflit?
Tout. Non, tout est interpellant. Je veux dire, c'est une tellement grande épreuve. Et c'est une épreuve mondiale, elle ne concerne pas que la France. Il faut le voir sous cette forme-là. Et puis, elle n'est pas terminée. Aujourd'hui encore, et les gens n'ont peut-être pas conscience de cela, mais on vit dans les séquelles, on vit dans le traumatisme de cette Première Guerre mondiale, des traités de paix et d'une après-guerre. J'aurais rappelé que les Anglais envahissent l'Irak en 1914, avant même la déclaration de guerre avec la Turquie, pour mettre la main sur les puits de pétrole, parce que la marine anglaise a des chaudières à fioul. Le Kosovo, 100 ans après, c'est pas terminé. Donc les Balkans. L'Ukraine aujourd'hui a un peu peur de nouveau de perdre son indépendance face à la Russie. La Palestine en 1917, on avait cru régler un problème, mais j'ai l'impression que c'est pas terminé. Et voilà, on vit encore complètement dans le traumatisme et dans la cicatrice de cette guerre. C'est pas tout à fait fini, ça sourde encore le sang.
Et qu'est-ce qu'on va découvrir à travers cet album?
Alors, Vernet vient de donner des explications historiques. Moi, j'ai pas le temps de les donner puisque je raconte l'histoire d'un pauvre type. C'est-à-dire, c'est un sans-grade, c'est un type qui est pas content d'être là, qui est embarqué dans cette affaire, qui a les deux pieds dans la boue, qui aimerait bien rentrer chez lui, il sait pas où il est, il sait pas vraiment pourquoi il est là, on ne lui a rien expliqué et il subit tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette vision-là, c'est ce point de vue-là, plus exactement, celui du type ordinaire auquel je m'identifie et vis-à-vis duquel je me pose des tas de questions, c'est-à-dire ça va concerner des milliers, des millions d'hommes, c'est-à-dire comment ont-ils vécu vivre ça au quotidien et rester sur le terrain. On sait qu'à Verdun, on a balancé en un an 45 millions d'obus. C'est insensé, même les chiffres nous apportent rien, ça ne veut plus rien dire. Comment ont-ils tenu? Comment est-ce que tout ça a été possible? C'est ces questions que je me pose, auxquelles évidemment j'ai jamais trouvé de réponse.
Alors, c'était Jacques Tardy qui nous expliquait un peu ce qu'on va retrouver dans le nouvel album qu'il a signé en compagnie de Jean-Pierre Vernet, qui s'appelle Putain de guerre et qui est maintenant disponible en librairie. Avant de poursuivre avec l'entrevue, entre autres, où on va demander à Dominique Grange ce qu'elle pense, ce qu'évoque pour elle l'anarchisme, on va écouter une chanson tirée de son plus récent disque qui s'appelle N'effacez pas nos traces, 1968-2008. La chanson s'appelle La Pègre. Vous êtes à CKIA à l'émission Voix de fait.
La pègre, on en est, la chienlit aussi. Des éléments parfaitement incontrôlés, des indésirables, des autres enragés, et quelques milliers, groupuscules isolés. Nous sommes tous des dissous en puissance. Nous chopent tous, des Juifs et des Allemands. Nous sommes tous des dissous en puissance. Nous sommes tous des Juifs allemands. Nous sommes des gauchistes, des aventuristes, marxistes, léninistes, guévaristes ou trotskistes. Nous sommes des anards, nous en avons marre de voir vos flicards quadriller nos boulevards. Nous sommes tous des dissous en puissance. Nous sommes tous des Juifs et des Allemands. Nous sommes tous des dissous en puissance. Nous sommes tous des Juifs allemands. C'est dans vos prisons, c'est dans vos bourgeons que nous écrirons nos plus belles chansons. Vous n'avez rien vu, vous n'y avez pas cru, vous l'aurez voulu, ça se passe dans la rue. Nous sommes beaucoup, nous sommes partout, ce n'est qu'un début, la lutte continue. Nous sommes tous des dissous en puissance. Nous sommes tous des Juifs et des Allemands. Nous sommes tous des dissous en puissance. Nous sommes tous des Juifs allemands.
Si on revient justement au spectacle d'hier soir, Dominique Grange, parmi les chansons que vous avez interprétées, on en retrouve entre autres une de l'anarchiste Sébastien Faure. Qu'évoque pour vous l'anarchisme aujourd'hui?
L'espoir. L'anarchisme, c'est toujours une vision du monde, pour moi, généreuse, qui remet en question la notion d'ordre établi, de l'ordre établi tel qu'on nous l'a imposé, ce faux ordre établi qui, en réalité, n'est pas la volonté du peuple, mais toujours l'organisation de l'oppression. Au niveau des États et au niveau aussi international, des ententes capitalistes sur la mamie, sur l'économie, etc. Donc la notion d'anarchie, c'est l'espoir, parce que c'est l'écoute de l'individu, c'est la réflexion collective, c'est la décision prise collectivement, c'est un espoir d'un homme différent qu'on aimerait déjà être à notre niveau individuel et qu'on aimerait pouvoir voir se réveiller chez les gens qu'on croise quelquefois, je sais pas, on regarde dans un ascenseur ou dans un grand magasin, enfin, moi souvent c'est une réflexion que je me fais, je regarde les gens autour de moi, je vois des comportements et je me dis comment est-ce qu'on pourra faire la révolution avec ces gens-là. Alors ça m'amène à cette idée que il y a toujours quelque chose à sauver chez les gens et que personne n'est méprisable sauf ceux qui veulent écraser les autres. Voilà, cette idée de l'anarchie, elle est pour moi véritablement mon espoir. Toutes les expériences du communisme qui se sont vécues au niveau des États ont été des catastrophes. Donc le communisme dans sa source, dans son essence est une belle idée quand même, mais on voit qu'autour de nous toutes les révolutions se sont terminées dans des bains de sang. Donc on ne peut avoir de l'espoir que dans une vision du monde qui est pour l'instant certainement une utopie. En tout cas, on nous dit que c'est une utopie et que moi, je crois réalisable avec je ne sais pas combien de temps il faudra pour qu'on puisse la concrétiser. En tout cas, oui, elle est la plus belle pour moi et celle qui me donne envie de vivre et de me battre.
Mais dans votre travail aussi, comme bédéiste, comme auteur, vous avez travaillé sur la Commune de Paris. Est-ce que pour vous, la Commune incarne un peu cet idéal-là aussi également?
Oui, parce que c'est un exemple, ce qu'on a appelé des démocraties directes. C'est-à-dire que, oui, des comités se réunissent et vont légiférer. Alors, ça va être des discussions interminables, etc. La Commune ne dure pas très longtemps, elle dure moins de 3 mois. Mais malgré tout, énormément d'idées vont surgir. Des mesures vont être prises concernant le monde piété, le travail des enfants, la prostitution,
tout ce qui est social, enfin,
l'éducation des filles. Oui, on est à l'époque, on n'est pas très loin des talibans. Hein, on se pose la question, faut-il éduquer les filles? Bon, c'est à ce moment-là que Louise Michel va jouer un rôle extrêmement important. La suppression de la peine de mort, on va brûler la guillotine devant la mairie du 11e arrondissement à Paris. Il faudra, donc on est en 1871, il faudra attendre 1981 pour que la peine de mort soit définitivement abolie en France. Donc après la Commune, après l'écrasement dans le sang, après cette fameuse semaine sanglante qui réjouissait Zola d'ailleurs, ça va aller de 15 000 à 30 000 morts, je ne sais pas quels sont les chiffres. Les chiffres varient selon les historiens, communards ou versaillais. Voilà, c'est ça. Donc là, tu m'as fait perdre le fil. Oui, je veux dire qu'il y a un certain nombre d'idées qui ont été lancées et qui vont être récupérées par le partiaire, par l'État, cet État qu'on évoquait tout à l'heure. Une fois que certaines idées sont lancées, il n'y a plus rien à faire, elles font leur chemin et elles vont être récupérées. Et notamment en matière d'éducation, par Jules Ferry, qui était un colonialiste épouvantable et qu'on nous a revendu comme un magnifique républicain. Enfin, il y a des tas d'exemples comme ça. Donc l'État va récupérer ses idées en évidemment leur tordant le cou pour essayer de s'y retrouver, ce qui prouve bien que l'ennemi, c'est l'État, parce que finalement nous n'avons pas besoin de l'État. L'État a besoin de nous, mais nous n'avons absolument pas besoin de lui. Les communards l'avaient prouvé. L'État était officiel à Versailles et les choses s'organisaient sans l'État à l'intérieur de Paris. Malheureusement, ça n'a duré que 3 mois.
Non, effectivement, mais je crois qu'il y avait beaucoup de générosité aussi.
Oui, tout à fait.
Il faut remettre ça dans le contexte de gens qui venaient de subir un siège très, très dur, en fin de compte. Alors ça fait sourire, on dit ils mangeaient du rat, ils ont mangé surtout les animaux du jardin des plantes, hein, la girafe, l'éléphant, le rhinocéros. Non mais ils avaient beaucoup souffert, et il y avait une générosité pour quelque chose de nouveau, abandonner cet empire, cet empereur, et puis vivre.
N'a pas eu de chance, il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la Butte et le bois de Meudon. On les cueillit en étant plus facile. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades, des Versaillais infâmes approchent de Paris. Je t'ai dit avec toi, je vais aux barricades. La place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernière culbute d'une balle en plein front, sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères. Malheur à qui nous vole en nous avilissant. Le respect et de justes salaires, et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire, on les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les valets, les tyrans étaient en plus grand nombre. Il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous visant au cœur. Sans verser, la liberté va naître, la commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. De notre sang versé, la liberté va naître, la commune est en lutte et nous sommes vainqueurs.
Hier, Dominique Grange, vous avez également présenté l'une de vos plus récentes chansons qui s'intitule « N'effacez pas nos traces », qui est également le titre de votre album paru en 2008. Album d'ailleurs qui a été illustré par Jacques Tardy. Dans la chanson, on y sent entre autres l'inquiétude de l'oubli de l'héritage de mai 68. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir vous exprimer à ce sujet-là?
Cette espèce de déni dans lequel notamment les médias ont abondé depuis 68 de ce mouvement, c'est-à-dire le déposséder de sa dimension sociale et révolutionnaire, qu'on le veuille ou non. Les ouvriers ne se contentent pas de se mettre en grève pour des revendications syndicales. En 68, il y a un espoir d'aller plus loin, de dépasser les corporatismes ou la revendication stricto sensu et de changer l'ordre des choses. Il y a dans les usines un fort mouvement contre les cadences, contre la hiérarchie, on veut foutre en l'air les chefs, etc., voire s'approprier l'outil de travail et éventuellement tenter l'expérience autogestionnaire. On parle d'autogestion. Tout ça fait qu'on rêve d'organisation différente du monde et du travail. Et ça va être complètement blackboulé, ça va disparaître. Les accords de Grenelle vont totalement gommer cette dimension-là et donner le SMIC, augmenter le SMIC pour les ouvriers les plus mal payés. Et toute cette remise en question du monde, cette vision qui va au-delà, elle est gommée, elle est trahie en tout cas. Et ensuite, on va s'employer pendant les années qui suivent, pendant les décennies qui suivent, et jusqu'à l'année dernière où on voit fleurir dans la presse, dans les médias, des articles absolument dégueulasses, ridiculisant le mouvement de mai 68, le réduisant à une poussée d'acné juvénile, d'étudiants, de petits bourgeois, de fils de famille, en mal de je sais pas quoi, de réduire la dimension sociale et révolutionnaire de ce mouvement, et de faire de nous, les 68ards, des gens ridicules, des gens qui se sont amusés dans les facultés, qui ont joué à lancer des pavés sur les flics, qui eux-mêmes jouaient à balancer des grenades. Ça m'est insupportable. C'était évidemment cristallisé par le discours de Sarkozy qui disait qu'il allait liquider qu'il allait liquider l'héritage de mai 68. Mais c'est pas seulement réduit à cette seule intervention oratoire de Sarkozy, c'est tout ce qui depuis 40 ans a voulu réduire et ridiculiser et dévaloriser ce mouvement et lui ôter cette dimension révolutionnaire, parce que ce qui fait peur dans mai 68, c'est le mouvement social, en réalité, c'est 10 millions de grévistes, c'est le plus long mouvement, c'est la plus grande grève ouvrière de tout le mouvement ouvrier dans le monde. Et ça, cette perspective-là d'un pays gelé, immobilisé, où le capitalisme ne fonctionne plus au fond, puisque l'économie est paralysée, ça fout les jetons. C'est bien, ça montre bien à quel point ça fout les jetons aux dirigeants, ça montre bien à quel point c'est juste et c'est important, et c'est même déterminant que des mouvements de ce type puissent à nouveau exister, se développer, etc., avec une organisation de cette lutte qui soit pas une organisation qui va au bout du compte le trahir et le tuer dans l'œuf. Voilà.
m'en souviens très bien. J'avais presque ton âge. Mon père parlait souvent d'une drôle de guerre qui le fit prisonnier. Au bout d'un long voyage, il le garda 4 ans éloigné de ma mère. Sur ces années perdues, je voulais tout savoir sur ces plans d'évasion qui avaient tourné court. J'aurais dû lui dire d'en écrire les mémoires, de l'heure de la débâcle à celle du retour. N'effacez pas nos traces, tout est écrit dedans, pour qu'un jour en passant, ces petits cailloux blancs, nos enfants les ramassent. N'effacez pas nos traces, par-delà les frontières. Dans les années 60, résonna de nouveau le mot libération. Des maquis du Vietnam, aux rues effervescentes d'un vieux quartier latin en pleine insurrection. Des hauts fourneaux lorrains, aux carreaux de la mine, la révolte gagna le métro et les gares. 10 millions d'ouvriers occupèrent les usines, et ce fut la plus grande grève de notre histoire. N'effacez pas nos traces, tout est écrit dedans, pour qu'un jour en passant, ces petits cailloux blancs, nos enfants les ramassent. N'effacez pas nos traces, au RTF en lutte, halte à la répression, unis camarades, les métallos tiendront. Notre arme c'est la grève, et Renaud Flin vaincra. Travailleurs, étudiants, continuons le combat, dénonçant l'injustice, les salaires de misère, dressant des barricades comme les communards. Nous voulions inventer un monde solidaire, et nous avions raison, nous les 68 ans. N'effacez pas nos traces, tout est écrit dedans, pour qu'un jour en passant, nos enfants les ramassent. N'effacez pas nos traces, ce sont les souvenirs de ces journées intenses, où partout nos espoirs s'affichaient sur les murs, qui depuis 40 ans inspire nos résistances, toujours au rendez-vous pour un autre futur. Ce n'était qu'un début, elle vient la relève, et de mai 68, elle héritera demain. N'en déplaise à certains fossoyeurs de nos rêves, tant voulu nous voir baisser le poing. N'effacez pas nos traces, tout est écrit dedans, qu'un jour en passant,
qu'un jour en passant, ces petits cailloux blancs, nos enfants les ramassent, n'effacez pas nos traces.
C'était la chanson « N'effacez pas nos traces » de Dominique Grange, qu'on a interviewée lors de son passage à Québec la fin de semaine dernière. Elle était ici, elle a fait un spectacle très remarqué au Musée de l'Amérique française. Elle était accompagnée au piano par Monsieur Mira, je pense, c'est le nom du pianiste, Philippe Mira, excusez-moi. Et son spectacle est également accompagné d'une projection de dessins de Tardy, qui est également son compagnon de vie, le BDiste Jacques Tardy, d'ailleurs, qui illustre fort bien les chansons de Dominique Grange qu'on retrouve dans cet album, et à la fois album et livre, qui s'appelle 1968-2008, N'effacez pas nos traces, dont était tirée la dernière chanson. Les événements de mai 68 ont eu un impact direct dans la vie de Dominique Grange. Avant 1968, Dominique Grange était une chanteuse populaire. Elle avait sorti quelques 45 tours, même 33 tours également. Avec les événements de mai 68, elle va se joindre en compagnie de quelques autres chanteurs à justement cette grande révolte populaire. Elle va soutenir les luttes, aller vers justement les grévistes. Elle va animer justement des rencontres, des meetings dans des usines occupées. Et après mai 68, disons, la carrière de Dominique Grange va prendre un tout autre tournant. Elle va enregistrer d'autres chansons, mais celle-ci prendront décidément un tournant beaucoup plus engagé politiquement et socialement. Et d'ailleurs, l'une d'entre elles, qui s'appelle « Les nouveaux partisans », qu'on a entendu, la première version de la chanson en tout début d'émission, eh bien, cette chanson-là finalement pris aujourd'hui, vu d'aujourd'hui, en tout cas, une petite dimension presque culte auprès de certains militants et militantes révolutionnaires beaucoup plus jeunes. Et justement, on lui a posé la question, cette chanson, quel était le contexte derrière elle? On écoute Dominique Grange.
Oui, cette chanson, je l'ai écrite en 70, alors que j'étais établie, comme on disait, en usine. C'est-à-dire qu'après 68, j'ai arrêté de chanter. Je suis partie en usine pendant un an et demi. J'ai vécu l'expérience des militants qui étaient des militants 24 heures sur 24 engagés dans le mouvement révolutionnaire, avec l'idée que la révolution était au bout du chemin, qu'elle serait peut-être plus rapide qu'on ne pensait, qu'on s'armerait rapidement. Je croyais à la lutte armée aussi à l'époque. J'étais dans une organisation qui n'était pas une organisation anarchiste, qui s'appelait la gauche prolétarienne, qui était une organisation dite maoïste, maospontex, c'est-à-dire qu'on appelait plutôt anarcho-maoïste, curieusement, à l'époque. C'est-à-dire que, évidemment, l'expérience de la révolution en Chine était encore mal connue en France. On savait pas trop ce qu'avait signifié en réalité cette révolution culturelle, le bain de sang que représentait la révolution culturelle. On était encore dans l'idée que les révolutions qui avaient échoué ailleurs, à l'Est, peut-être, étaient en train de poindre en Chine. C'était une mauvaise appréciation, une très mauvaise analyse de la réalité. En tout cas, on a été nombreux en France à quitter nos métiers, nos universités, et aller s'établir en usine pour apprendre auprès du prolétariat, être, comme disait Mao Tse-Tung, dans les masses comme des poissons dans l'eau, aller apprendre du prolétariat le sens de la révolution et apprendre d'eux pour la faire à leur côté. Donc j'étais en usine quand j'ai fait cette chanson « Les nouveaux partisans » et l'idée c'était effectivement qu'un nouveau fascisme s'installait en France. On reprenait un peu les symboles de la Deuxième Guerre mondiale, de la résistance à l'occupation, à la collaboration, etc. Les syndicats étant les nouveaux collabos et nous les nouveaux partisans. Et voilà, curieusement, cette chanson continue de cristalliser un espoir pour des gens, puisque je vois bien dans les concerts que les gens la chantent. À Montréal, le concert qu'on a fait...
J'ai déjà chanté dans un karaoké à Sherbrooke.
C'est vrai? Ben à Montréal, les copains anarchistes qui étaient là l'ont chanté aussi dans la salle. Et c'était vraiment... J'étais très surprise. Quand je suis venue en octobre dernier, j'étais vraiment surprise de voir qu'elle était connue ici. Et d'ailleurs, des groupes m'ont écrit, les groupes maoïstes aussi.
Ouais. Il y en avait quelques-uns hier dans la salle.
Oui, ils sont venus me voir. Voilà, alors ça, c'est quand même une fraternité au-delà des frontières. Et ce qui est formidable, c'est qu'en fait, on pense la même chose, on dit la même chose, mais on le découvre, on rencontre des individus qui se battent comme nous en France pour les mêmes idées.
Et Tardy, est-ce que c'était la première fois que vous illustriez comme ça un disque, le mettre en image?
Oui, c'est la première fois. Non, c'est pas la première fois. J'avais fait un truc pour un groupe de travelots qui s'appelait les Mirabelles il y a très longtemps. C'était un disque, 33 tours, etc. Mais de façon aussi complète, en essayant de coller au maximum au texte, enfin, d'une certaine façon, en l'illustrant sans évidemment être trop redondant et doubler le texte, c'est la première fois. Oui.
En tout cas, le résultat est très réussi. J'espère que les auditeurs de Voix de Fer auront l'occasion de mettre la main soit sur N'effacez pas nos traces, 1968-2008, le recueil, ou encore Putain de guerre en librairie.
Précisément, autour de Putain de guerre, c'est prévu, les lendemains qui saignent, donc
le spectacle d'hier qu'on a pu voir.
Le spectacle, le CD va sortir, et avec un bouquin, même principe, même format que N'effacez pas nos traces.
Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chef Aillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez-les, nos voix, elles annoncent la guerre.
Nous sommes les nouveaux partisans, frontières de la guerre de classe, les camps du peuple et notre camp, nous sommes les nouveaux partisans.
Regardez l'exploité quand il rentre le soir, et regardez les femmes qui triment toute leur vie, vous qui bavez sur nous, qui dites qu'on se sent bourgeoise, descendez dans la mine, à 600 mètres de fond, c'est pas sur vos tapis qu'on meurt de silicose, vous comptez vos profits, on compte nos mutilés, regardez-nous vieillir au rythme des cadences, patron, regardez-nous, c'est la guerre qui commence.
Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre des classes, les camps du peuple et notre camp, nous sommes les nouveaux partisans.
Baladez-vous un peu dans les foyers putrides où on dort par roulement quand on fait les 3-8. La révolte qui gronde au foyer noir d'Ivry annonce la vengeance des morts d'Aubervilliers. C'est la révolte aussi au cœur des bidonvilles où la misère s'entasse avec la maladie. Mais tous les travailleurs, immigrés sont nos frères, tous unis avec eux, on vous déclare la guerre.
Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe, le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans.
Et vous les gardes-chiourmes de la classe ouvrière, vous sucrez sur notre dos, ça ne vous gêne pas, vos permanents larbins nous conseillent la belote et parlent en notre nom au bureau du patron. Votez, manipulez, recommencez Grenelle, vous ne nous tromperez pas, maintenant ça marche plus, il n'y a que deux camps, vous n'êtes plus d'une autre. À tous les collabos, nous on fera la guerre.
Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe, les camps du peuple et notre camp, nous sommes les nouveaux partisans.
La violence est partout, vous nous l'avez apprise, patron qui exploitait, et flic qui matraquait, Mais à votre oppression, nous crions résistance. Vous expulsez Kader, Mohamed se dresse. Car on n'expulse pas la révolte du peuple, peuple qui se prépare à reprendre les armes que des traîtres lui ont volées en 45. Oui, bourgeois contre vous, le peuple veut la guerre.
Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe.
Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans.
Vous êtes toujours à l'émission Voix de fait sur les ondes de CKIA. Voix de fait est animée par les membres du collectif Anarchiste la Nuit. Si vous voulez en savoir plus sur le collectif et sur l'émission, allez sur notre blog Voix de fait avec un X et un S. blogspot.com. On est maintenant avec Janie. Salut.
Salut.
Qui va nous parler d'un communiqué du groupe Anonymous concernant l'Église de Scientologie.
Ça, c'est un communiqué du collectif montréalais d'Anonymous pour dénoncer la présence à l'Université Concordia de la Commission des citoyens pour les droits de l'homme, CCDH, un organisme de façade de l'Église de Scientologie. C'est ça, c'est... Le collectif montréalais, il affirme que ce groupe-là, en plus de faire preuve de malhonnêteté quand son appartenance à la Scientologie, pratique les révisionnistes de l'Holocauste, en d'autres mots, tu dénies de celle-ci, ce qui était l'erreur au Canada. La Scientologie, il croit fermement que la psychiatrie était partie responsable de l'Holocauste, du génocide de 6 millions de Juifs. Selon eux, sous le couvert d'une commission qui vise à dénoncer les abus de la psychiatrie, mais ils visent à battre complètement la psychiatrie, puis m'emmener le leader de la Scientologie, David Miscavige. Il avait expliqué en 2007 devant des CETADEC que la violence envers la psychiatrie était nécessaire, puis c'est une affaire de même. Il y a une lettre qui a été envoyée à Michael DiGrappa, qui était le vice-président des services à l'Université de Concordia, qui lui était dit qu'il était au courant entre les liens entre les organisations, mais que lui, il ne voyait aucun problème avec.
Avec tout ça.
Avec tout ça. Puis. Puis la Scientologie, bon, c'est pas une organisation qui est vraiment prête à dialoguer dans le respect et tout, parce que juste quand il y a des manifestations contre ces organisations-là, ben tous les manifestants se massent tout le temps le visage parce qu'il y a tout le temps des harcèlements qui est fait contre les manifestants. Puis ce qui est dit plus loin à la fin du communiqué, c'est que l'Église Scientologie est considérée comme une organisation dangereuse en Allemagne, sec en France, puis aussi est poursuivie par plusieurs pays à cause de pratiques légales de la médecine, puis est-ce qu'elle crée une bande organisée. Puis la dernière phrase, aux États-Unis, de récentes poursuites déposées par des ex-scientologues qui accusent la controversée secte de trafic humain et d'avortement forcé.
Bien, alors, on va suivre ça. Maintenant, on va aller en musique avec une chanson du groupe montréalais La Gâchette. La chanson s'appelle « Ville morte ». D'ailleurs, notre camarade Farouko, derrière la console aujourd'hui, me glissait à l'oreille que La Gâchette est actuellement en tournée européenne. Donc, si on a des camarades qui nous écoutent outre-Atlantique, eh bien, allez les voir, un bon groupe de chez nous.
Ça roule pour eux.
Eh oui. Alors, tout de suite, voici La Gâchette avec « Ville morte ». Vous êtes à voix de fait.
Sous
vie de mort.
C'était La Gâchette, vous êtes à Voix de Fait. C'est maintenant le temps de notre mini calendrier militant pour la prochaine semaine. Eh bien, ne manquez pas ce samedi 25 avril dès 13h30 à l'ENAP au 555 boulevard Charest-Est. Le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste organise un forum public, un forum citoyen sur l'avenir du site du Petro-Saint-Vincent-de-Paul. Vous savez, si vous êtes familier avec le centre-ville de Québec, cette façade qui tient seul contre vent et marée, contre les promoteurs, le promoteur Jacques Robitaille, qui aimerait bien la jeter à terre pour en faire un Xème hôtel au centre-ville. Alors, évidemment, le comité des citoyens du quartier Saint-Jean-Baptiste, étant donné que la ville refuse d'organiser pour l'instant des audiences publiques sur l'avenir de ce site-là, eh bien, décidé de prendre l'initiative et d'organiser un forum où tous et toutes seront invités à s'exprimer sur le devenir de ce site exceptionnel au centre-ville, un site qui pourrait bien tomber encore une fois dans les mains de l'industrie touristique. Alors, parmi les panélistes, on retrouvera Marc Boutin, Winnie Fron, qui est urbaniste et également une ex-conseillère municipale du Faubourg Saint-Jean, également Marcel Junius, qui est architecte et urbaniste, également président honoraire de la coalition Héritage Québec. Alors, tout ça, c'est le 25 avril à 13h30. C'est organisé par le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste et c'est à l'ENAP au 555 boulevard Charest-Est. Évidemment, l'entrée est libre. Et un peu plus tard, le vendredi 1er mai, c'est le retour des manifestations de la Journée internationale des travailleurs et des travailleuses à Québec après de nombreuses années où il ne s'est pas passé grand-chose de très spectaculaire. Eh bien, cette année, les groupes membres du REPAC, qui est en fait des groupes populaires en éducation, qui font de l'éducation populaire autonome dans la région ici, organisent un rassemblement dès 15h, suivi d'une marche à 15h30. Le rassemblement est à la place de l'Université du Québec. Ça, c'est où, ça? Ben, c'est juste à côté du Parc des 6 millions, coin du boulevard Charest et de la rue de la Couronne. Alors, le 1er mai, face à la crise, on refuse de s'appauvrir. Voilà pourquoi les groupes membres du REPAC organisent ce carnaval de crise et cette manifestation du 1er mai à ne manquer sous aucun prétexte. Vendredi, le 1er mai, dès 15h, à la place de l'Université du Québec, au coin de la rue de la Couronne et du boulevard Charest. Un peu plus tard en soirée, eh bien, la Page Noire, la librairie sociale autogérée de Québec, organisera au café-bar L'Agité son cabaret du 1er mai. Donc, ça suivra justement le rassemblement du REPAC. C'est tout pour l'émission Voix de Fait cette semaine. Il y avait Janie Farouco et moi, Mathieu. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir.
Périssent tous dans les peintes, solitaire ne passe pas sous la table et des princes. Peu loué pour secouer des pinces, ma vie ratait des trains. Leur conseil c'est une pensée rigide. Je vois mes mains, l'horizon, enfin les forces invisibles. Certains d'aller au paradis, vendent d'être pieux. Que Dieu me jette aux enfers pour pas que je reste avec eux.
J'ai toujours eu mes pieds au sol, jamais rampé. Pour une barre de lumière, j'ai planté ces pensées dans mon jardin, le saphir et le satin. Personne ne les verra avant que la base et le plan soient lancés. J'ai toujours eu mes pieds au sol, jamais rampé. Pour une part de lumière, j'ai planté ces pensées dans mon jardin, le saphir et le satin. Personne ne les verra avant que la base et le plan soient lancés.
J'ai choisi mon cas après avoir pris des cours sur la vie. Du coup, j'ai déclaré mon avis à tous les sourds. Mener ma façon de voir le monde et pas que ses contours. Ma tour, ma base, ce qu'elle vient d'un dessous, tour. Y'a un tas de robot qui gêne pas la matrice. Mon âme présente ses voeux et loin du fascisme. Free MAN a fait ses classes dans la rue et pas la fac fils. Non pas que je sois fier, c'est mon monde et j'y peux rien. Le plus rien je l'ai eu dès le début et à la fin. Amen, 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 dans le mal, amen. Le bien on cherche encore sans penser à la fin. Ce que je crains c'est d'être cloué au sol comme un chien. Dans ce pays on m'a dit que j'avais des droits en tant qu'homme. Sûr qu'ils m'ont pas vu, je suis beau blanc, je suis pas le clone.